Voilà, donc on va commencer par deux pièces qui ne viennent pas de la même anthologie. La première, c'est une pièce de Milan Knisak qui était faite en fin des années 60. Et c'est fait en fait avec des vinyles brisés, recollés, etc. Donc, c'est le premier extrait. On ne va pas peut-être écouter tout en entier. Hein. Et le second, ça sera Rogelio Souza, qui est un jeune compositeur mexicain, qui lui aussi a travaillé sur la platine plutôt que le vinyle. Donc c'est les deux premiers extraits, puis après on parlera un peu plus généralement de l'anthologie. Finalement, je m'aperçois en écoutant ça, d'ailleurs, parce que je n'ai pas vraiment prévu, mais que ce sont des pièces qui ne sont pas vraiment inscrites dans une histoire bien déterminée. Parce que, dans un sens, l'histoire de la musique, elle est conçue par des musicologues et elle traite de la musique savante. Et quand on aborde la musique électronique, elle n'est pas abordée comme une expression en soi, mais faisant partie d'un ensemble, et très souvent comme l'expression d'un prolongement de la musique sérielle, par exemple. Et voilà comment les livres d'histoire de la musique se terminent généralement, par quelques références qui sont du reste presque toujours les mêmes, Stockhausen, etc. Et voilà. Et puis après, ça se termine comme ça, un peu abruptement, alors qu'évidemment, il y a un pan très important de la musique qui se développe ensuite ou parallèlement. C'est une première chose. D'une autre manière, quand on traite généralement, que ce soit, disons, dans des magazines, dans des livres, ou même sur le web, etc., très souvent, quand on parle de musique électronique, c'est-à-dire plutôt là, techno ou enfin electronica, etc., il n'y a pas d'historicité, ou très peu d'historicité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire. Bon, sans doute aussi parce que la chose est en train de se faire. Et comme elle est en train de se faire, souvent, on oublie ce qu'il y a avant ou ce qui pourrait se passer après. On est vraiment dans l'action. Si par hasard, il y a des références au passé, généralement, j'ai remarqué que ça n'allait pas plus loin que Kraftwerk, par exemple. Kraftwerk est souvent cité comme les ancêtres de l'électro, de la techno, etc. Oui, ça peut aller même jusqu'à Jean-Michel Jarre. On cite parfois Jean-Michel Jarre. Bon. Donc là, il y a deux zones qui apparemment n'ont rien de commun. Et finalement, moi, ce que j'ai tenté d'explorer avec les anthologies que j'ai faites, enfin là, j'en ai fait cinq jusqu'à présent, il en reste encore deux à faire, puis j'arrêterai, je ferai autre chose. Donc c'est cette zone-là qui est une zone un peu d'entre-deux, qui n'a pas été trop explorée, que j'essaie, disons, d'explorer moi, enfin de relier. Finalement, je tente de faire des liens entre des compositeurs qui, peut-être, a priori, n'ont rien de commun. Mon anthologie s'appelle aussi... Il y a le mot « noise » dans le titre, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la musique électronique, mais c'est également, il y a également une notion de bruit. Et donc, ça c'est déjà une première approche, selon moi, puisque le bruit est fortement lié à la musique électronique, puisque le bruit est lié à l'électricité. Donc, la production, disons, de bruit est très, très largement produite par l'électricité. Il faudrait donc, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait voir quelques définitions du bruit. Par exemple, quelques définitions ici glanées, hein, ici et là. Généralement, donc, bruit, perturbation indésirable qui se superpose au signal et aux données utiles dans un canal de transmission, dans un système de traitement de l'information. Bon, c'en est un. Une autre, un bruit très intense procure une sensation désagréable, puis douloureuse au-delà de 120 décibels. Après, c'est le seuil de la douleur, les dommages irréversibles, les tympans qui éclatent, etc. Bon. Autre définition, bruit, son non désiré, son que l'auditeur ne veut pas entendre, ou sonorité erratique, intermittente, dû au hasard. Bon. Voilà, donc, en fait, il ne s'agit pas véritablement ici d'intensité, mais quelque chose qui perturbe l'écoute. Si, par exemple, on imagine une pièce faite d'erreurs, de parasites, etc., si on l'écoute en sachant qu'elle est faite d'erreurs et de parasites, on l'admettrait bien. C'est une pièce qui est conçue. Par contre, si vous écoutez quelque chose... qui nécessite justement une écoute pointue sans aucune perturbation, dès qu'il y aura un chointement, dès qu'il y aura à ce moment-là, disons, ça va apparaître comme un bruit. Autre définition, bruit, ensemble des sons sans harmonie. Bon, on pourrait évidemment alors définir ce qu'est une harmonie pour savoir ce qu'est un bruit. Dans le fond, parler de bruit, c'est avant tout parler de la perception qu'on en a. Oui, de même que, en parenthèse, mais le silence, évidemment, on a la même difficulté à parler du silence, puisque dans les endroits les plus silencieux, voilà, on sait donc, on se souvient de l'expérience de John Cage là dans à Harvard dans la chambre anéchoïde, où c'est une chambre où il n'y a aucun bruit extérieur. Ne vient perturber disons, cet espace. Et finalement, après un temps, donc, dans un premier temps, effectivement, on sent vraiment la chape disons, de silence, mais après quelques minutes, on commence à entendre des bruits, mais venant de son propre corps. Donc, et ce sont des bruits généralement d'une très grande intensité. Voilà, au bout de quelques moments, il n'est pas possible de rester dans une telle chambre. Donc, pourtant, on est au cœur même du silence. Donc, là encore, ça me semble paradoxal, mais... voilà, non.
semble effectivement, alors qu'une définition objective du bruit ne sert pas à grand-chose et ne mène à rien. Quant à la subjectivité, ben, effectivement, c'est tout ce qui dérange, hein, véritablement, l'écoute. Oui, tout est bruit pour qui a peur, Sophocle. Voilà, c'est exactement ça. Hein. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut imaginer une musique bruyante dans un monde qui serait silencieux? Je ne crois pas. À vrai dire, le bruit est lié à un système de valeurs et d'écoute. Hein. Au départ, je sais pas, durant l'Antiquité, par exemple, on imagine bien, disons, ce qui faisait le plus de bruit. On peut imaginer que bon, c'est le tonnerre, la tempête, par exemple, ça a été représenté par la suite. La mer, les chutes d'eau, les cataractes, ce genre de choses-là. Et puis également la guerre. Voilà, ça c'est. Et la guerre, bon, elle a été abordée, disons, de façon, je dirais, esthétique, mise en musique par pas mal de compositeurs. Au 15e, au 16e siècle, notamment, où on reconstitue des batailles. Donc, chaque poste d'instrument est chargé de représenter les différents protagonistes d'un combat. C'est une musique qui est plus bruyante, plus stridente aussi que certaines autres. Le bruit, oui, en fait aussi pour l'effroi. Et l'effroi religieux, notamment. Donc, ça, c'est l'aspect, disons, des orgues, l'impression qu'on a d'un orgue. Voilà. Je me souviens, oui, notamment des orgues baroques en Espagne, qui en fait, au-delà, disons, de... Bon, c'est un orgue qui semble tout à fait traditionnel, mais il y a des tuyaux horizontaux qui sont dirigés vers les gens, et à certains moments, je veux dire, ça évoque évidemment, c'est une sorte de fureur et de bruit, donc pour impressionner évidemment les gens. Ça, c'est un aspect religieux, bon, probablement aussi peut-être lié à la catharsis aussi. Donc, mais ce sont des aspects quand même très particuliers. Historiquement, on sait également que le bruit, il a été éradiqué petit à petit dans l'histoire, pour arriver à une musique qui est absolument sans bruit, c'est-à-dire avec le moins de percussions possible, parce qu'il est très difficile de définir la percussion. Voilà, donc ça donne Mozart, ça donne Handel, etc. Ce sont des musiques qui sont en fait dénuées de bruit. C'est probablement, voilà, c'est le XVIIIe siècle, sans doute la clarté, disons, d'exécution, la clarté de la pensée, etc., le refus du chaos, enfin, quelque chose comme ça. Puis alors, évidemment, bon, la chose repart, le bruit réapparaît au XIXe siècle avec les musiques romantiques, mais principalement quand même de la deuxième moitié du XIXe, c'est-à-dire qui correspond à la révolution industrielle, c'est-à-dire c'est l'ère des machines, quoi. Et donc là, on peut imaginer des choses qui sont beaucoup plus... beaucoup plus frappante, je veux dire, et beaucoup plus intense aussi, parce que finalement, donc la machine à bruit, c'est l'électricité, quoi. Hein, je veux dire, avant ça, c'est assez difficile de faire du bruit, en fait. Oui. Bon, un exemple qui n'a peut-être pas tout à fait à voir, mais enfin, c'est l'écoute aussi, parce que voilà, on se demandait ce qu'était le bruit. Bon, par exemple, la musique des gamelans, par exemple, c'est la musique des gamelans a été jouée assez régulièrement, principalement dans les foires, dans les expositions universelles, etc., et notamment à Paris, donc, les musiques du Sri Lanka. Donc, on a commencé à... Bon, ces musiciens, qui sont des musiciens classiques, je veux dire, ont commencé à jouer du gamelan, etc. Et Berlioz a écouté un jour ces pièces, et il y a attendu du bruit, en fait. Du bruit et rien d'autre. Et 30 ans après, Debussy a écouté la même musique, puisque cette musique n'a évidemment pas changé, puisque c'est une musique traditionnelle. Lui a entendu des choses qui l'ont inspiré pour sa musique. Donc voilà, donc c'est une même musique, ça peut être pris comme du bruit, ça peut être pris comme quelque chose, disons, qui est plutôt une perspective à l'avenir, etc. Voilà, donc on revient, disons, dans la même, dans cette même idée. Voilà. Je voudrais peut-être maintenant, on va peut-être écouter un peu de quelques pièces, mais que je vais quand même tenter de mettre en rapport, disons, avec quelques idées tout à fait générales, mais qui sont plutôt des pistes de réflexion, à vrai dire. Voilà, parce que généralement, tout ce travail, c'est plutôt, je le vois plutôt comme un outil, à vrai dire, que tout le monde peut utiliser à sa guise, etc. C'est ça qui m'intéresse, moi. Je veux dire, je ne fais pas un discours, disons, extrêmement fermé ou construit, mais plutôt des fragments qui peuvent s'interpénétrer, qui peuvent faire sens à un moment donné. Voilà. Donc, voilà, peut-être quelques pistes de réflexion. J'en ai pris 5. Qui vont peut-être un petit peu à l'encontre de ce que l'on sait, de ce que l'on attend généralement de la musique électronique. Quand on parle de musique électronique, évidemment, on parle en ses débuts des années 50, à vrai dire. Hein. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la musique électronique, mais je veux dire deux, trois petites choses. On sait qu'il y a trois axes principaux, donc historiquement. C'est en 48, donc Pierre Schaeffer, donc qui diffuse sa musique concrète, donc au Club d'essai hein, à Paris, Club d'essai qui va se transformer en groupe de recherche musicale GRM un peu plus tard. Voilà. Ça, c'est la musique concrète. C'est un aspect. Un deuxième aspect, c'est aux États-Unis que ça se passe. C'est Ushasevsky. Qui met au point, disons, à New York, la Columbia Princeton Electronic Music Center. Et là, en fait, c'est un peu des combinatoires, je dirais, de musique concrète, de musique électronique, avec un aspect un peu tonal encore, et ça va donner ce qu'on appelle la tape music. La tape music, c'est simplement une musique qui est sur une bande magnétique. Et quand on veut diffuser cette pièce, ben, il n'y a plus d'orchestre, etc. Bon, ça, c'est exactement comme Schaeffer, hein, puisque là, c'est aussi une diffusion. Donc, il y a une suppression de l'instrument. Là. Donc, on est simplement dans l'écoute d'une pièce qui a été faite une fois pour toutes. Ce qui n'est pas rien, à vrai dire. Puisque jusqu'à présent, les pièces ont toujours été réévaluées au fur et à mesure du temps. Je veux dire, si on écoute... ce que Boulez a fait de Wagner, c'est pas le Wagner d'il y a un siècle. C'est très différent comme musique. L'approche est différente, etc. Donc, là, on ne bénéficie pas de ces interstices, de ces possibilités de changement. On est vraiment dans la musique. Alors, évidemment, en contrepartie, il y a une manière de la diffuser, etc. Donc, c'est là où on peut jouer éventuellement dans l'élaboration. D'une réécoute, mais voilà. Alors, la troisième branche, si on veut dire, c'est en 51 aussi, donc 48, 51, 51, c'est vraiment aux abords, tout début des années 50, c'est Herbert Eimert qui met au point donc, le studio électronique de Cologne, hein, donc, qui va donner la WDR, donc c'est à la radio que ça se passe. Et c'est là que Stockhausen commencera donc ces pièces très très célèbres, etc. Donc c'est un peu ces trois embranchements-là qui vont donner finalement la musique telle qu'on la connaît. C'est aussi l'histoire devient ce qu'on raconte finalement, parce que si on le raconte de nombreuses fois, ça devient l'histoire. Ça, j'ai remarqué, une erreur répétée devient finalement une forme de réalité. Le fait, par exemple, que la musique techno qui a été inventée à Chicago c'est parce que ces gens qui ont créé, disons, cette musique ont écouté quelques mois auparavant Kraftwerk, par exemple. Voilà. Donc ça se dit. Donc tout le monde sait ça. Peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai, j'en sais rien, personne n'a vérifié. Mais donc, en répétant les choses, je veux dire... On forme finalement un fond de réalité. J'ai découvert une chose, par exemple, assez, assez amusante et assez curieuse finalement, c'est, on dit toujours, oui, Schaeffer était le premier à diffuser ce type de musique en 48. On va écouter une pièce diffusée maintenant, et après ça, on va écouter une autre pièce qui a été diffusée, elle, en réalité, 4 ans avant, et elle a été diffusée en Égypte. Et bon, c'est une chose qui généralement est peu sue ou pas sue du tout. Non. On va écouter cette pièce donc qui a été faite par Hakim Elbakht et qui a été donc diffusée de la même façon, c'est-à-dire à la radio, 4 ans avant. Voilà. Or, bizarrement, enfin, je veux dire, le fait est que cette pièce généralement n'est jamais prise en compte. Donc la première, c'est la pièce de Schaeffer, hein, 5 études de bruit, étude violette, qui n'est pas tellement souvent diffusée, donc de 48. Voilà, les pièces qui font plus ou moins 3 minutes, j'aime pas les couper, donc voilà. C'est très très long, ok, bon, je les coupe, mais 3 minutes, je crois que tout le monde peut écouter 3 minutes. Celle-ci, donc, c'est Hakim Elbakht, s'appelle Wire Recording Piece, 1944. Thank you.
Non, c'est... Enfin, disons que d'après ce que l'on en sait, et d'après le titre, il s'agirait en fait d'une pièce faite avec des longs fils métalliques. Voilà. Oui, parce que, oui, c'est ça, oui, des fils qui vibrent, des fils très longs qui vibrent et qui auraient été captés par un micro, puis réarrangés sur une bande magnétique. Voilà, donc cet homme a fait quelques pièces en Égypte, et puis il a travaillé à New York, en fait, après, à Princeton. Voilà. Il existe un label américain, un tout petit label américain, a ressorti d'ailleurs son travail il y a 2 ou 3 ans. Bon, c'est très intéressant à écouter. Hein. Voilà, donc là, on parle de studios, parce que, bon, tout d'abord, les studios, il y en a peu. Là, je vous en cite 3, parce que c'est eux qui ont commencé. Mais, bon, évidemment, durant toutes les années 50, il va y avoir... Enfin, ça va être un peu un sport national que de construire, disons, un studio. Et, bon, voilà, donc, après, en Italie, par exemple, à Milan, en 53, donc, il y a un studio très important où Berio travaillera. Il y a à Hollande, à Eindhoven, la Philips Research Laboratories qui vont commander une pièce à Edgar Varèse, le fameux le poème électronique, hein, qui va être diffusé à la Foire universelle à Bruxelles en 58. Bon. Bon, il y a aussi, oui, la radio polonaise va également créer un studio expérimental à Bruxelles, l'Appelac, fondé par Henri Pousseur en 58, etc. Ok, donc on voit que dans les années 50, on crée des studios, mais les studios sont évidemment des objets très difficiles à manier. Et là, il va se passer une chose, c'est que il n'y a que les compositeurs patentés, quoi, qui ont vraiment les diplômes, etc., qui pourront aller dans ces studios. Et donc, il y a pas mal de gens, issus par exemple des écoles techniques, bon, des techniciens de radio, etc., qui vont vouloir s'essayer la composition, et généralement, ça ne va pas avoir lieu. Un des exemples les plus connus, en fait, c'est Todd Dockstader, qui est un Américain, qui, lui, travaillait, en fait, à la bande-son de dessins animés. Voilà. Donc, il avait un studio assez conséquent, donc où il y a des délais, de l'écho, etc., donc pour faire des pièces sonores, donc justement des effets spéciaux, si vous voulez, pour les dessins animés. Et lui, il travaille là la journée, et le soir, il compose. On va écouter une pièce de lui, maintenant. Et dans un laps de temps très court, puisque c'est de 60 à 63 ou 64, il va produire 4 vinyles qu'il va en réalité autoproduire. Ces vinyles vont avoir un certain succès, une certaine renommée. Il y a pas mal de gens qui les citent encore. Puis alors, après ça, quand il a quitté son travail, il pensait simplement devenir un compositeur de musique électronique. Et là, en réalité, après plusieurs essais infructueux, il a dû renoncer à la composition. Et ce n'est que bien plus tard, plus de 25 ans plus tard, en réalité, qu'il a recréé de la musique sur son propre ordinateur, en fait. Puisqu'évidemment, maintenant, les gens n'ont plus besoin de studio, ils peuvent composer chez eux. Voilà. Donc c'est une histoire un peu tragique, finalement, puisque c'était un compositeur très, très prometteur. On va écouter maintenant une pièce qui date de celle-ci, par exemple, de 61. C'est la 2. Un fragment. Écoutez maintenant un fragment d'une pièce qui s'appelle Drone, qui était faite en 62, donc l'année d'après. Voilà pour Dockstader. Tout à l'heure, je présenterai une pièce. Enfin, je la nommerai pas parce que tout à l'heure, je ferai plutôt un mix avec différentes choses. Mais notamment, il y aura des pièces récentes en fait de Dockstader, qui sont absolument différentes. Ils sont beaucoup plus sobres et beaucoup plus statiques. Oui. Tout à l'heure. Une autre notion. Notre piste de réflexion, comme ça, hein, qui va peut-être à l'encontre de ce que l'on croit généralement. Et c'est une notion qui me vient d'un compositeur et un théoricien belge qui s'appelle Léo Kuper. On a fait un film sur lui il y a quelques années. Et lui disait ceci, c'est une erreur
de voir la musique électronique comme étant opposée à la nature. Non, au contraire, c'est la musique classique qui est opposée à la nature. Mais, au contraire, la musique électronique est même le prolongement organique, si on veut, de la nature. J'offre ça à votre réflexion. Moi, très souvent, je me suis dit que c'était vraiment vrai. Je veux dire, il y a certainement, disons, un côté organique, un côté imprévisible, qui peut tout à fait être conçu comme presque une excroissance de la nature. Voilà. Donc, alors, cette idée est assez difficilement concevable. Parce que la musique électronique, notamment, a été généralement associée depuis les années 50, depuis sa fondation, à quelque chose de futuriste, etc. Or, dans le futur, à pas de nature, etc. Bon. On va écouter ici une autre pièce qui, je trouve, illustre bien ça. Mais voilà, mais c'est valable pour presque toutes les pièces que l'on découvre, peut-être aussi dans la nature. C'est une pièce de Richard Maxfield, de 1960. Alors peut-être une autre notion que je voudrais faire passer comme ça, c'est la relecture de l'histoire. Finalement, l'histoire, elle est construite généralement par d'autres, mais on peut aussi la réévaluer d'où on est. Hein, voilà. Et par exemple, le cas par exemple de Russolo est assez particulier puisque Russolo, voilà, c'était un futuriste italien. Il a fait des machines à bruit. Il a créé des pièces sonores, probablement parmi les premières pièces brutistes dans les années 10. Et c'est bien évident qu'à l'époque, il était plutôt considéré, je crois, comme plutôt un excentrique et qui n'avait pas vraiment de filiation. Au même moment, à l'époque, des gens comme Poulenc, Neger, etc., étaient vraiment les compositeurs les plus connus, les plus aimés sans doute aussi. Et finalement, on s'aperçoit maintenant, quand on refait l'histoire, donc d'où on est, d'où on se trouve, Russolo apparaît très certainement extrêmement régulièrement, puisqu'il était le premier, finalement, à imaginer la beauté du bruit. C'est-à-dire que le bruit est peut-être aussi une jouissance, et pas seulement un effroi. Voilà, donc c'est une réappropriation aussi de fragments d'histoire oubliés, en fait, ou presque oubliés. Et c'est remis, en fait, aussi dans le champ de la musique, dans un sens beaucoup plus large. Oui, une phrase de Barthes, que j'ai lue hier ou avant-hier, qui... je suis retombé là-dessus, je crois que c'est le plaisir du texte, il dit « lire Flaubert à partir de Proust ». Ça peut être quelque chose comme ça, c'est-à-dire lire une chose du passé à partir de quelque chose que nous connaissons. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on écoute maintenant une pièce d'Olivéros. Je pense que vous avez écouté une pièce hier. Ici, c'est une pièce assez ancienne, qui date de 66, je crois, une pièce expérimentale, très brutiste. Et bon, voilà. Puis après, on en parlera un peu. Une pièce très très longue, qui fait 30 minutes, donc il faut bien l'écouter. On ne va pas l'écouter en entier, sans doute. Ça se poursuit vers quelque chose qui est beaucoup plus brutiste. Je veux dire, c'est une très très longue progression comme ça. Bon, c'est à mon avis très beau, mais La question, c'est de se dire qui, en 1964 ou en 1966, pouvait entendre Olivéros. Je pense que, finalement, elle est parfaitement entendue aujourd'hui. Mais si elle l'est, je veux dire, c'est à travers les écoutes que nous avons faites, à travers des gens comme Merzbow, Aphex Twin, etc. On est tout à fait... l'oreille est aguerrie, véritablement, à ce genre de sonorité. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut vraiment l'écouter, d'où l'intérêt de, justement, de republier, ou alors parfois de publier, parce que c'est une pièce qui était inédite, ou de republier des pièces anciennes pour les confronter aussi à la réalité d'aujourd'hui. C'est très utile, ça, souvent, de savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé auparavant, non pas pour l'amour de l'histoire, vraiment, mais pour se dire qu'il y a des filiations. Je veux dire, il y a des filiations qui, généralement, sont indirectes. C'est ça, peut-être la dernière notion, disons, que je vais évoquer aujourd'hui, c'est effectivement la filiation directe. Vous auriez alors des filiations directes, c'est-à-dire les écoles, l'école acousmatique, c'est une filiation directe. Les élèves en sortent, ils feront l'acousmatique. Certains seront bons, d'autres mauvais. Enfin, bon, bref, ça sera, disons, dans la tradition. Ça sera, dans un sens, une nouvelle académie. Et moi, ce que je défends, c'est plutôt les filiations indirectes, c'est-à-dire que, entendant ça, par exemple, ça peut inspirer quelqu'un aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est un peu l'esprit, disons, qui préside à la publication de toutes ces anthologies, et puis de notre travail en général. Quoi. Voilà. Comme d'habitude, je n'ai pas de conclusion.